La chronique qui déballe. Une émission pour mieux consommer et protéger votre santé, sans oublier la planète. Bonjour Strasbourg, bonjour au quartier Spar, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez cet après-midi pour notre nouvel épisode de notre émission radio, La Chronique qui déballe. Une émission pour parler santé et environnement au quotidien. Un espace radiophonique pour échanger avec des experts sur la consommation afin de préserver notre santé et l'environnement des substances toxiques qui peuvent se trouver dans les produits que nous utilisons tous les jours sans le savoir. Alors comment apprendre à identifier ces produits à risque tels que des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des pesticides et d'autres micropolluants? Vous êtes dans la chronique qui déballe, l'émission qui donne la parole aux habitants du quartier Spar. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis l'espace interassociatif La Ruche 35. Nous avons du public rue Vauban. Merci de nous accueillir. Pour ce premier épisode, nous allons centrer notre sujet sur les substances dangereuses pour la santé et l'environnement qui peuvent se trouver dans nos vêtements. Restez avec nous, nos invités répondront à vos questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Nellig. Bonjour, vous êtes encadrante technique et désigneuse du projet Patchworkers d'Emmaüs Mundo. Nous avons également Maxime Pommiès.
Bonjour.
Ingénieur innovation à la direction services eau et assainissement de la ville de Strasbourg. Bonjour également à Pierre-Jean Dessèze.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Du magazine UFC Que Choisir dans le Bas-Rhin. Et nous aurons également un peu plus tard Madame Gass, Delphine Gass, fondatrice de l'association TADAM. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui nous parlons vêtements. Et adopter un mode de vie sain n'est plus le dernier truc à la mode, c'est devenu un vrai choix de vie. Si bien que de plus en plus de personnes font attention à leur alimentation, à la provenance des produits ou même à la condition de fabrication. Mais ce n'est pas encore le cas pour nos vêtements. Et pourtant, les matières textiles que nous portons au quotidien peuvent elles aussi être toxiques pour notre corps et nocives pour l'environnement. Mais quels sont les critères pour choisir nos vêtements ? Pour en savoir plus, les défricheurs sont partis à la rencontre des habitants du quartier Spar pour recueillir leurs témoignages et discuter de leurs critères pour acheter des vêtements. Écoutons-les.
Quelles sont les matières que vous avez l'habitude de consommer pour vous vêtir ?
Du coup, je fais un peu attention. J'essaye de prendre du coton et de la laine en majorité, mais des fois, c'est assez inévitable de... Du polyester, c'est inévitable.
Coton, lin et aussi de la laine.
En général, j'essaye plus ou moins aussi d'acheter du coton. Mais après, j'avoue que parfois, craque aussi sur des trucs en polyester, même si on sait que c'est pas bien. Quand on arrive à fabriquer des vêtements soi-même aussi, j'essaye au max.
Coton, polyester, jersey, jean, simili-cuir, ça c'est du plastique, des trucs comme ça.
Moi c'est coton principalement et le synthétique.
Et moi je dirais coton et pas mal de nylon pour faire du sport quand même.
Parmi les matières évoquées, laquelle est la plus polluante selon vous ?
Je dirais le polyester du coup, parce qu'il me semble qu'il y a du plastique dedans.
J'hésite entre le jean et le coton, je sais pas en vrai parce qu'il y a tout ce qui est agriculture, enfin avec l'eau, tout ça, et les déchets, ouais le coton.
Il y a déjà tout ce qui est teint, les jeans qui sont pas teints, quand on voit ça, c'est pas très gai. C'est... Bon, les autres matières, je ne sais pas tellement alors. Le jean, ça m'a frappé quand j'ai vu ça à la télé, les matières, les teintures, c'est atroce.
Je suis pas un expert sur ça, mais je crois que nylon, parce que ça vient de pétrole. C'est pour ça que ça pollue beaucoup plus que les autres.
Je pense que ça doit être les matières synthétiques, parce que c'est beaucoup du plastique, tout ça. Mais je pense que le coton est la plus polluante, parce que c'est ce qu'on produit le plus.
Quels sont vos critères pour choisir vos vêtements ?
J'essaye de les prendre en friperie, le plus souvent. Des fois, je craque un peu sur un truc de fast fashion, et je fais attention que ce soit pas trop souvent.
Le fait qu'elle soit faite en France.
De bonne qualité, que ce soit produit le plus proche possible de chez nous.
Honnêtement, j'essaye d'acheter le moins polluant, mais j'avoue que parfois, financièrement, ça joue aussi beaucoup. Surtout quand on est étudiant, on peut pas se permettre de prendre non plus tout le temps. C'est un peu un deal à faire.
Le prix, déjà, c'est important. Le prix, la qualité.
Si c'est joli et le prix... je sais qu'avant, j'avais l'habitude d'acheter sur Chine, et puis quand j'ai vu que c'était vraiment une catastrophe, j'ai vraiment arrêté, et aujourd'hui ça me dégoûte un peu quand même, j'avoue. Mais sinon, j'avoue que je vais quand même un peu dans les boutiques de fast fashion. Je sais que c'est apparemment pas bien, mais bon, quand même, je le fais quand même. Sinon, je vais beaucoup en fripe et surtout, j'achète beaucoup sur Vinted. La plupart de mes habits sur Vinted et puis voilà.
Pas trop cher, de bonne qualité.
Pensez-vous que nos vêtements peuvent polluer la planète et nous rendre malades ?
Oui, clairement, j'ai déjà vu des tas de vidéos et de photos d'empilement de vêtements qui polluent et dont on ne sait pas quoi faire, qui ne se recyclent pas.
Polluer la planète, oui, nous rendre malades, je vois pas, mais oui, d'accord.
Oui, clairement. Ben ouais, on n'est pas assez informés, mais les habits, c'est ce qui pollue, je crois, le plus aussi. C'est une des sources qui pollue le plus et on ne s'en rend pas souvent compte.
Alors oui, alors déjà dans la production, je pense que ça rend malade des centaines, des milliers de personnes. Et même, je pense que dans des endroits où il n'y a pas forcément des véritables normes sur les vêtements, je sais qu'en Europe, dans l'Union Européenne, c'est vachement contrôlé. Mais je sais qu'il y a des entreprises qui sont très négligentes là-dessus et qui se permettent de vendre des vêtements qui pourraient par exemple irriter la peau ou... Bah, notre peau est assez sensible sur certaines substances et je sais qu'il y a des entreprises qui s'en fichent et qui du coup cherchent juste à faire du profit et qui du coup.
Donc d'après ce micro-trottoir, les critères le plus pris en compte pour s'habiller sont principalement économiques, souvent esthétiques et parfois éthiques et écologiques. Je me tourne vers vous les experts, vous allez décrypter ces habitudes de consommation. Quelles sont vos réactions par rapport à ces témoignages, ce micro-trottoir ? On peut commencer avec Monsieur Dessèze ?
Oui, bon, moi je trouve qu'on a entendu beaucoup de choses, c'est varié. Pour moi, je retrouve en tout cas un certain nombre d'évidences, d'affirmations, de préoccupations. Et puis aussi de recherche. Certains ont été déjà sensibilisés par des émissions. Donc ça, pour moi, c'est très, très positif de se renseigner, de s'informer. Et puis d'être sensible aux questions environnementales et aussi un petit peu sur la santé. Mais on le verra peut-être après. À mon avis, même si on le souhaite, c'est très difficile.
C'est sûr. Ce sera l'une de nos thématiques juste après, lors de l'émission. Monsieur Pommès, peut-être ?
Oui, bah alors j'ai entendu aussi le mot fast fashion et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont répondu en disant bon, bah, j'essaye de faire mieux, mais j'avoue que presque à contre-cœur, je vais vers la fast fashion parce que bah, c'est malheureusement le modèle qui se trouve le plus facilement au coin de la rue. Donc là, ça implique aussi d'avoir plus de connaissances, plus de prise en compte des problématiques et aussi se dire qu'il y a d'autres modèles pour choisir ces vêtements qui sont possibles.
Et les connaître et les mettre en pratique également, parce que c'est une envie après derrière de pouvoir s'investir dans ce domaine.
Exactement.
Et pour vous, Madame Nelig ?
Oui, bah c'est vrai qu'on entend plein de choses et on sent surtout que c'est vraiment un peu difficile en fait. Même pour, enfin, il y a plusieurs personnes qui parlent, par exemple du polyester, en disant que voilà, on sait que c'est pas bien et on essaye de pas, mais on a des fois on n'a pas trop le choix. Enfin, il y a une personne qui disait c'est inévitable. Et en fait, il y a vraiment avec la fast fashion un petit peu cet aspect-là de quelque chose un peu d'inévitable, même quand on essaye le plus possible de pas y aller pour différentes raisons, que ça soit économique, voilà, surtout économique, je pense. Il y a, avec la fast fashion, il y a cet aspect un peu pervers qui, en effet, même quand on essaye de pas, des fois, on n'a pas trop le choix. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui existe et qui, à la fois, a créé nos habitudes de consommation, mais est maintenant, aujourd'hui, aussi encouragé par nos habitudes de consommation.
Totalement.
Donc, c'est quelque chose c'est un truc qui se... un cercle vicieux, quoi.
Et très attractif par rapport au marketing. Et
voilà,
ça, on le verra tout au long de l'émission. Passons maintenant à notre première partie.
La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement.
Comme nous l'avons dit, malheureusement, l'impact sur notre santé ne fait pas du tout partie des critères pour choisir ce qu'on porte. Déjà en novembre 2012, Greenpeace avait alerté sur la présence de substances toxiques dans la quasi-totalité de nos vêtements, comme des colorants perturbateurs, des perturbateurs endocriniens, dans un article intitulé « Les dessous toxiques de la mode ». Monsieur Dessèze, vous représentez donc UFC Que Choisir Barin, une revue de consommation qui passe à la loupe tous les objets du quotidien, y compris ce que nous portons. Est-ce que ce constat est toujours d'actualité ?
Alors oui et non. Oui, dans la mesure où jusqu'alors l'étiquetage obligatoire des vêtements ne mentionnait que de très très faibles informations, de très rares informations, et pratiquement exclusivement la composition en catégories de textiles différentes, avec le pourcentage dans le textile, et de façon facultative des conseils d'entretien, rien de plus. Sinon, les choses sont en train de changer, puisque en janvier de cette année, il devient obligatoire pour les fabricants de rajouter un étiquetage, cette fois-ci beaucoup plus important, étiquetage qui devrait augmenter l'information du consommateur et en particulier diminuer les allégations environnementales, je dirais sans réel fondement, devrait mentionner les substances dangereuses, donc ça pour nous c'est très très important. Devrait également parler de la proportion de matières recyclées dans le vêtement et leur recyclabilité, donc la possibilité qu'on a de recycler tel ou tel textile, ainsi que leur compostabilité. Hein, ça paraît anecdotique, mais en fait pas du tout, puisque il y a un troisième bon point, je dirais, tout à fait récent, c'est qu'un l'organisme chargé de la filière des déchets textiles vient de revoir son agrément dans cette filière. Et lors de cette révision, le gouvernement a élargi le recyclage à tous les produits tachés ou abîmés. Alors que vous savez, au jour d'aujourd'hui, dans les boîtes métalliques dans lesquelles on peut laisser ses vêtements, tout ce qui est taché ou abîmé est interdit. Eh bien, à partir de ce mois-ci, ça ne l'est plus, ce qui va permettre d'élargir aussi le champ du recyclage de ces habits. Et puis, de façon donc, cette fois-ci, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, cet étiquetage donc, va permettre de discriminer un peu mieux les produits dangereux. Alors, en matière de produits dangereux, j'aimerais quand même parler de deux choses un petit peu différentes. La première, ça concerne le vêtement lui-même. Et la seconde, son entretien, parce que le vêtement, de par sa production, son transport, etc., va contenir des éléments toxiques, va générer des gaz à effet de serre. On entendait beaucoup parler de polyester. Oui, l'utilisation de pétrole, ce sont des matières qu'il vaut mieux aujourd'hui limiter. Mais également dans l'entretien, l'utilisation des lessives, dans les lessives eux-mêmes, il existe un certain nombre de produits qui ont tout à fait des effets sur la santé qui ne sont pas négligeables.
Ah, tout à fait. Alors les lessives, on en parlera juste après, Monsieur Dessèze. C'est une très très bonne thématique. C'est d'ailleurs une thématique qui va être les plus importantes pour nous après, parce que ça fait partie de l'impact aussi environnemental, mais même d'un niveau de santé. Mais je pense qu'il sera préférable de faire toute une partie après, si ça ne vous dérange pas. D'ailleurs, vous parliez juste avant des composants. Il y a l'un des habitants a une question pour vous.
Peut-être effectivement, quelles sont les matières textiles les plus polluantes pour faire un peu attention lorsqu'on achète. C'est vrai que moi, j'avoue, je ne fais pas du tout gaffe aux matières quand j'achète un truc. Je regarde si ça a l'air solide, si c'est pas trop cher, et puis je l'enfile.
Donc j'ouvre ma question à tous, pour vous aussi Monsieur Dessèze. Parmi les substances les plus toxiques, on peut trouver, donc on a beaucoup parlé du polyester, on a le polyamide. Aujourd'hui, il y a d'autres substances qui existent. Quelles sont les plus toxiques? Lesquelles faut-il éviter?
Alors je dirais, vous avez mentionné en fait des textiles, mais pour moi, il peut y avoir des impacts environnementaux, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les adjuvants qui vont, au cours de la production, introduire des bénéfices pour la production, pour faciliter la production, mais aussi pour permettre de la résistance à l'eau, résistance à la tache. Vous avez tous entendu parler du Teflon, du Gore-Tex, par exemple. Bon, ben voilà, là, on est en train de parler de produits qui peuvent avoir des impacts forts sur la santé. Et par rapport à ces produits, je tiens quand même à vous en donner un certain nombre. C'est le premier, je suis sûr que vous en avez entendu parler, ce sont les phtalates, qui sont des plastifiants, donc qui permettent de faciliter la production d'un certain nombre de textiles. C'est un perturbateur endocrinien. Le formaldéhyde, c'est un irritant. Les composés perfluorés, on en parle de plus en plus, on ne les connaît pas très bien, mais on commence. En tout cas, on sait qu'ils ont des effets, notamment en provoquant des cancers. Voilà. Les phénols, en particulier les nonylphénols, c'est encore pire. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Et le plomb, il ne faut pas oublier. Alors, on a entendu les jeans avec les teintures. Oui. Eh bien, le plomb est très communément utilisé pour colorer les vêtements. Et le plomb, bah, c'est très dangereux pour le développement des enfants. Voilà. Donc, pour les textiles en eux-mêmes, voilà les adjuvants qui peuvent être dangereux pour la santé. Et on espère que dans le nouvel étiquetage, on pourra peut-être mieux les constater, donc faire des choix plus intéressants, plus importants pour chacun.
Oui, en mettant en lumière finalement chacun à sa conscience de pouvoir se dire je choisis ou je ne choisis pas. D'ailleurs, ces mêmes substances toxiques, chimiques, sont susceptibles de provoquer également des cancers, des dérèglements hormonaux qui peuvent impacter notamment la fonction reproductive et même provoquer des allergies chez beaucoup de personnes. Tout ça, c'est lié au marketing. Le marketing, comme on l'a dit, est très très fort. Par exemple, si j'ai en magasin un t-shirt qui coûte 10 euros et un autre à 100 euros, est-ce qu'on peut trouver les mêmes composants qui peuvent nuire à notre santé dans ce même t-shirt ?
Le prix ne discrimine rien. Le prix parle bien sûr peut-être de fabrication, de bénéfices, peut-être de qualité, mais ce n'est pas systématique. En tout cas, prendre le prix comme un élément de choix principal, c'est sans doute une erreur par rapport à ce plan-là de la protection de la santé. Non, l'important, c'est l'étiquetage et de regarder quelle est la composition du vêtement et des adjuvants qui ont été introduits lors de la fabrication.
Peut-être que le public a des questions à poser. On en a une, monsieur.
Merci, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Il y a deux aspects qui ont été un peu passés sous silence et que je le regrette. D'abord, dans l'interview des gens dans le quartier, beaucoup ont méconnu ce qui précède la confection du tissu du vêtement et son traitement à ce moment-là. C'est préexistant, c'est la façon de traiter à la production, notamment au niveau du coton. De même que les sucres, on sait maintenant qu'on est obligé de mettre des produits qui détruisent les abeilles, etc. Et bien dans les textiles, notamment le coton, ne parlons même plus de l'esclavage qui est censé avoir disparu, qui était aussi une source de forme de pollution sociale. Et bien la fibre, pour pousser correctement et en quantité, donc être lucrative, doit être traitée avec des produits pour accélérer, pour faire plus d'affaires. Un autre aspect qui a été passé sous silence, et je le regrette aussi, peut-être même davantage, c'est l'intérêt des fibres naturelles. Il y a dans la nature des fibres, le cachemire en est une, c'est une fibre creuse, naturelle, qui vient du cou des animaux qui paissent dans les hauts alpages, des buissons, des chardons, etc. C'est une fibre extraordinaire. Personne n'a cité la soie qui est fraîche l'été et chaude l'hiver, qui est un textile naturel absolument merveilleux, pas seulement au toucher, à l'utilisation aussi, même si on le traite avec évidemment des colorants. Donc voilà deux aspects. C'est avant le tissu dans lequel on met des produits chimiques et qui constitue un support. Donc il y a une forme de pollution déjà préalable. Et ensuite, tout l'intérêt des fibres naturelles. Et quand on fréquente les pays chauds comme je le fais, on a envie de porter du coton du Nil, on a envie de porter du lin. Le lin, le textile béni des Égyptiens, dans lequel, pour l'éternité, ils enveloppaient leurs ancêtres, leurs morts. Enfin, ceux de haut rang, tout au moins. Ça coûtait très cher. Voilà.
Mais tout à fait, les fibres naturelles n'ont pas encore été mises en valeur, mais on a le bambou également, on a d'ailleurs aujourd'hui des vêtements qui sont fabriqués en chanvre. Aujourd'hui, c'est souvent les plus onéreux sur le marché. Est-ce qu'on a une possibilité en tant que consommateur de pouvoir consommer de façon éclairée et de façon éco-responsable sans avoir à dépenser tout son salaire? Parce que l'un des critères les plus importants était le côté économique. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait peut-être une réponse ?
Oui, alors merci pour les éléments. Alors, c'est prévu encore d'en parler dans la suite de l'émission, l'émission n'est pas finie. Oui, c'est très difficile évidemment de trouver une solution sur l'aspect économique. Toutes ces fibres, elles existent, on sait les faire. Enfin, il y a le savoir-faire des fois, et là, vous parliez du chanvre en local, on sait faire pousser du chanvre en local. C'est aussi une plante qui demande peu d'eau, demande peu d'intrants chimiques, donc ça coche quand même pas mal de cases sur l'aspect bénéfice environnemental. La difficulté, et c'est l'aspect, on va dire, marketing et toute la société qui est encore en place, c'est d'arriver à changer les choses. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit les marques qui proposent des choses pour que les gens aient le choix ou les gens qui poussent pour que les marques... Voilà, on est toujours dans un équilibre qui est très difficile à faire changer. Alors, je pense qu'on est tous là autour pour être conscient qu'il faut le changer. Juste un chiffre que j'ai relevé en préparant l'émission, c'est que dans le monde, il y a à peu près 2/3 de tous les textiles qui sont vendus qui sont en fibres synthétiques. Donc on voit qu'on part de loin. voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on part de loin qu'il ne faut pas continuer d'avancer.
Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ce chemin, on peut le faire tous ensemble. Il y avait peut-être une autre question.
Alors moi, j'ai quelques remarques que je ne vais peut-être pas développer. Pour moi, enfin, je pense que associer, comme ça a été fait lors de votre micro-trottoir, un prix bas et la qualité, c'est incompatible. Il est préférable, alors c'est idéal, il est préférable d'investir dans un produit naturel qui dure à long terme, plutôt que de se contenter de vêtements qui coûtent très peu cher et qui sont des poisons. En fait, on s'empoisonne en s'habillant. Alors, voilà. Alors, par exemple, pour les jeunes, je pense que c'est très difficile de s'approprier cette idée. Ça demande déjà une grande maturité de se dire « j'investis à long terme, j'investis pour ma santé, etc. » Alors, pourquoi achète-t-on du polyester, etc. ? C'est aussi parce que ça rend le chatoyant, la couleur, les fibres synthétiques issues du pétrole ont des effets magnifiques.
Attractifs.
Attractifs. Et en ce qui concerne la soie, je voudrais quand même souligner qu'il y a soie et soie. C'est-à-dire qu'il y a une soie d'excellente qualité, mais elle a un prix très important parce qu'elle demande des étapes de fabrication beaucoup plus élaborées et une soie qui est l'équivalent des produits synthétiques. Alors, encore un autre point, dans les vêtements, par exemple, de sport qui permettent de rester au sec, il y a des nanoparticules. Et ces nanoparticules, d'après ce que j'ai compris, franchissent la barrière du cerveau. Donc, je crois qu'on ne connaît pas encore tous les effets, mais c'est extrêmement dangereux. Puis, je me demandais, mais c'est encore une fois idéal, si on ne pouvait pas obliger les commerçants, bon, ce sera impossible, mais bon, rêvons, lorsque le client paye, à ce qu'il soit face à un écran sur lequel il y a écrit... dit, puisqu'il y a différentes formes de compréhension de l'information, quels sont les produits dangereux utilisés pour... Alors peut-être présenter de manière sympathique, pas présenter comme ça de manière abrupte, mais voilà.
Cette
voilà.
idée rejoint fortement ce que vous disiez sur le nouvel étiquetage. Finalement, en fait, ça tend quand même vers cette direction de vouloir mettre au courant le consommateur de ses choix et de les faire en toute conscience, en connaissance de cause. Merci beaucoup pour toutes vos remarques. Oui, une petite dernière.
Écoutez, l'étiquetage, c'est quelque chose de très important. Mais j'aime les vêtements parce que j'ai eu une maman qui était une grande couturière. Lorsque je me rends dans les magasins, je ne vois pas de personne prendre l'envers du vêtement et lire l'étiquetage. Et même pour ceux qui lisent l'étiquetage, c'est un savoir qui est tellement important que si on n'a pas, enfin, à l'extrême, suivi des cours, enfin, si ce n'est pas scientifique, on n'y comprend rien.
C'est vrai que parfois, les étiquettes peuvent être très compliquées à décrypter. Est-ce que ça, ce sera simplifié dans le futur, vous pensez ?
Pour ça, je ne veux pas déborder sur la question des lessives, mais
allez-y.
On peut imaginer un jour, parce que j'en ai déjà parlé lors d'une autre émission, mais je vais en reparler ici pour les lessives. Il existe une application qui est développée par l'UFC Que Choisir, qui est gratuite, d'accès libre, et qui permet très facilement d'avoir une idée synthétique sur la qualité d'un produit par rapport soit à la nutrition ou par rapport aux produits ménagers, aux cosmétiques, etc., avec un commentaire environnemental. On peut juste imaginer que, en ce qui concerne l'étiquetage des vêtements, l'UFC Que Choisir, un jour, développe un nouveau versant de cette application qui pourrait aussi, de façon synthétique, renseigner là-dessus. Parce que c'est pas très compliqué. À partir du moment où la composition est publique, on peut construire une base de données et, avec un certain nombre de critères, eh bien, donner un renseignement global. Le Nutri-Score, par exemple, c'est des couleurs, du vert au rouge. C'est très facile à vérifier. Il n'y a pas besoin de prendre une loupe pour regarder exactement tout ce qu'il y a. Voilà. Mais je dis bien, là, je parle dans le futur. Si vous le voulez, je vais transmettre votre souhait dans ce sens-là. Mais je pense qu'on pourrait effectivement gagner à le développer.
Merci beaucoup pour tous vos commentaires. On va passer à la suite de l'émission, maintenant à notre deuxième thématique, les conséquences environnementales et l'industrie du textile.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Donc au-delà de l'impact des vêtements sur notre santé, le monde du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, avec 1,2 milliard de tonnes de CO2 produits par an, sans oublier qu'il s'agit aussi d'un secteur qui consomme 4% d'eau potable disponible sur la planète. Pour vous donner un exemple, la fabrication d'un t-shirt est l'équivalent de 70 douches. Nous avons M. Pommiès avec nous aujourd'hui. En tant qu'ingénieur, en termes scientifiques, on parle d'empreinte d'eau. Mais alors à quoi ça correspond ?
Oui, alors c'est quelque chose qui a déjà été du coup un peu évoqué par la question de monsieur dans le public tout à l'heure. Voilà, quand on a un vêtement, il y a ce qu'on a dû utiliser comme eau et polluer pour fabriquer ce vêtement. Et il y a après ce qui se passe qu'on utilise ce vêtement et qu'on l'entretient et donc quand on le nettoie dans une machine à laver. Au niveau de l'empreinte eau, donc, ça correspond à l'eau qui a été nécessaire à la fabrication et à l'apport de ce vêtement jusqu'à chez nous. Donc ça part de l'irrigation des champs pour le coton ou autre, de l'eau qui a été nécessaire pour son transport jusqu'à nous, puisque très souvent, les vêtements sont fabriqués loin d'ici, et dans des pays qui subissent souvent le manque d'eau. Donc c'est aussi une grosse problématique. Et il y a aussi toute l'eau utilisée dans les procédés de fabrication. Donc voilà, pour les t-shirts, ça fait à peu près 70 douches. Pour un jean, vous en doutez, c'est encore plus. Ou vous en doutez pas, d'ailleurs, peut-être. C'est 11 000 litres d'eau, ce qu'on estime. Donc voilà, ça fait quelque chose d'assez important. Et comme ça a été dit, il y a aussi les usines de fabrication qui sont souvent dans des pays où il n'y a pas de normes de suivi comme il peut y avoir au moins en France, et donc avec des impacts sur les travailleurs et sur l'environnement autour des usines qui peut vraiment poser problème.
Donc on a parlé de substances toxiques pour la peau, mais on a aussi des microplastiques dans ces t-shirts ou dans ces vêtements. Qu'est-ce qu'on appelle microplastique et surtout comment ça se présente dans nos vêtements ?
Voilà, tout à fait. Donc ça a déjà été dit, on a parlé de nylon, de polyester. Donc dans la plupart des vêtements qui utilisent ce type de fibres, il y a du plastique, des phtalates notamment. Et à chaque fois qu'on lave ces vêtements, il y a des petites particules qui se détachent et donc qui finissent dans nos égouts, dans nos eaux usées. Ce qu'on appelle microplastique, c'est tous les différents types de plastique, PET, PEHD, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, qui sont plus petites que 5 mm. Et ces petites particules, emportées dans les égouts, le réseau d'assainissement, peuvent traverser les stations d'épuration, comme les autres substances qui ont été citées tout à l'heure, les micropolluants, parce que les stations d'épuration, aujourd'hui, ne sont pas conçues pour traiter ces substances. Alors, elles en arrêtent une très grande partie, tant mieux, heureusement, mais pas tout. Et donc, ça fait qu'il y a des éléments qui passent dans l'environnement et qui peuvent avoir des impacts sur les écosystèmes à court et à moyen terme.
Et lors de la préparation de cette émission, vous m'avez pas expliqué que même le fait de laver donc nos vêtements peut avoir une grosse conséquence au niveau des peaux, de la pollution des eaux usées. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce problème ?
Oui, alors justement, dans les eaux usées, on retrouve après tout un tas de substances chimiques qui viennent de nos vêtements, mais aussi de tous nos produits du quotidien, produits ménagers, produits bricolage, des rejets des entreprises, que ce soit des gros industriels ou des plus petits artisans. Et tout ce cocktail de substances se retrouve en entrée de station d'épuration. Une partie est arrêtée, alors dégradée ou alors absorbée, en tout cas récupérée au niveau de la station d'épuration, mais une partie traverse. Les traverses et finissent donc dans les milieux récepteurs, les rivières à la fin. Et là, il peut y avoir des impacts toxiques qui sont d'ailleurs, il faut savoir, connus ou pas connus, parce qu'on s'en doute, c'est une quantité de substances astronomiques, hein, on peut le dire. Et on n'a pas des données, c'est valable aussi sur l'aspect santé, hein, sur toutes ces substances, sur les effets à court et à moyen terme. Donc bon, c'est pas rassurant de dire ça, mais en tout cas c'est un fait, et il faut accepter que du fait de tout le chimisme qu'on a dans nos vies, on a des impacts sur l'environnement.
N'oublions pas que cette émission est un échange entre consommateurs et experts, laissons la parole aux habitants du quartier.
Peut-être quelle est la meilleure manière de sensibiliser à tout ce qui est question de la pollution, de l'industrie textile et...
Exactement. Comment est-ce qu'on sensibilise les gens à cette problématique ? Parce qu'il y a quand même une grande population qui achète en masse dans des commerces sans faire du tout attention à cette problématique.
C'est une très bonne question. je pense qu'une partie de la solution vient de ce qu'a dit M. Dessès, c'est aller davantage vers la connaissance et de factuel et de faire prendre conscience au consommateur de ce qu'il achète et donc avec ce qu'il achète des impacts qu'il potentiellement peut avoir pour qu'il soit conscient qu'il ait un choix et de savoir ensuite vers quelles autres solutions se tourner. Et ça, on y reviendra plus tard dans l'émission. Et ensuite, il y a un autre niveau qui est plus haut que nous, on va dire réglementaire et essentiellement... Alors, au niveau de l'Europe, déjà, pour ce qui est un peu plus proche de nous, d'arriver à faire évoluer les lois et de faire peut-être interdire certaines substances. Malheureusement, c'est très long à mettre en place. Il y a tout un tas de mécanismes, de lobbying qui sont aussi présents et qui, malheureusement, n'avancent pas assez vite.
Et vous, cher public, qu'en pensez-vous ?
Moi, je me pose juste une question. Je me dis que si sur une étiquette d'un jean, on mettait, par exemple, le nombre de litres d'eau, comment se comporterait le consommateur ? C'est-à-dire qu'en fait, ce serait intéressant de voir s'il y aurait quand même l'acte d'achat ou pas. Parce que le jean, en fait, c'est quelque chose que toutes les générations, enfin nos générations, ont connu. Moi, je connais des gens qui ont des jeans. Ça fait 30 ans qu'ils ont toujours le même jean. Et bon, ils ont la chance de ne pas avoir changé de morphologie, donc ils peuvent le mettre. Mais il y a des gens qui changent très rapidement de jean. Et comment je pense que il y aurait deux indicateurs, je pense, qui seraient déjà à la base. Parce que si on met trop d'informations, ça risque de noyer.
Totalement.
Ou alors on passe au Nutri-Score, comme dans l'alimentation. Mais il y a deux éléments, à mon avis, qui toucheraient le public. C'est l'eau et le travail de l'enfant. Est-ce que derrière ce vêtement, il y a eu un travail d'enfant ? Et je pense que là, quand même, la conscience des gens, il y a des gens qui achèteraient, hein, sans scrupule, ça c'est certain. Après, je pense, alors je ne vais pas arranger Lewis, magasin de Lewis à Strasbourg ou autre, tous ces magasins-là, mais je pense qu'il y a des gens qui ressortiraient sans acheter et qui se diraient, il y a peut-être un autre moyen. Le jean d'occasion, Je veux dire, il y a peut-être des étapes à franchir pour en arriver à faire prendre conscience par rapport aux vêtements. L'alimentation, ça a été un peu plus rapide parce que ça parle plus. Mais pour le vêtement, je pense qu'il faut y aller par étapes. Et moi, c'est vrai que les deux étapes de litre et de l'enfant, personnellement, c'est ce qui bloquerait l'achat.
C'est vrai, pourquoi cet indicateur n'est pas sur les étiquettes selon vous ? Monsieur Dessès ?
Bon, vous savez très bien que la réglementation est le résultat souvent de compromis faits entre les besoins de la population et puis d'autres besoins plus économiques. Et les fabricants font partie de lobbies qui sont extrêmement puissants. Et donc la réglementation avance à petits pas. Louvoie entre les uns et les autres, mais améliore les choses petit à petit. Là, au jour d'aujourd'hui, à partir de janvier 2023, on a quand même franchi un pas extraordinaire en demandant à ce que l'étiquetage, qui jusqu'alors ne proposait que, je dirais, c'est du polyester ou du coton, ou voilà, c'est tout, à la composition complète ou quasiment complète du produit, plus un certain nombre d'informations environnementales et avec l'interdiction ou du moins la limitation de ce qu'on appelle le greenwashing, hein, c'est-à-dire d'allégations environnementales qui sont plus ou moins fausses. Voilà. On y va à petits pas. Et si on y va à petits pas, c'est que voilà, ça rentre en conflit avec des intérêts qui sont très 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 puissants. Mais il faut continuer, il faut y aller à petits pas, il faut continuer. Voilà, on n'est pas au bout du guet, mais on a déjà franchi aujourd'hui une étape que personnellement je trouve très importante.
Peut-être un dernier mot de Madame Nellig.
C'est intéressant ce que vous avez dit parce qu'en fait, au niveau des vêtements, je trouve qu'il y a, en fait, c'est un peu l'idée qu'il y a deux prix. Il y a en effet le prix économique, ce qu'on va dépenser pour acheter un vêtement, et il y a le prix environnemental, ce que ça a coûté, en termes d'eau, en termes de qui a fabriqué ces vêtements, dans quelles conditions, en termes de justice sociale, etc. Qu'est-ce que ça a coûté? Et ça, c'est quelque chose que on voudrait savoir quand on achète nos vêtements. Et il y a aujourd'hui quand même pas mal de systèmes, disons, mis en place qui permettent d'observer les marques et les pratiques, etc. Mais ça a été dit juste avant, c'est extrêmement compliqué parce que la chaîne de production, ça se passe à plein d'endroits différents, on ne sait pas toujours tout. C'était juste pour dire que je trouve intéressante cette idée de deux prix, en fait, et que ça soit visible au moment de l'achat.
Un grand merci pour vos commentaires. Nous allons tout de suite passer à une courte pause musicale. Vous avez parlé de greenwashing. On écoute Greenwashing interprété par Trio.
On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
c'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 greenwashing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 green,
green, green, green, green, green, green washing.
La chronique déballe. Parlons santé et environnement. Vous venez d'écouter Greenwashing, un titre de trio. Vous êtes toujours sur les ondes des défricheurs. Aujourd'hui, nous dédions cette émission à l'impact des vêtements sur notre santé et la planète. Nous revenons donc sur la thématique des lessives parce que, bien évidemment, nous avons compris, les vêtements impactent l'environnement, les vêtements impactent la santé, mais il n'y a pas que les vêtements, il y a la façon dont on les nettoie également. Monsieur Dessèze, le numéro 600 du magazine UFC Que Choisir, publie en mars 2021 un dossier qui met en lumière les composants allergisants et polluants dans nos lessives. Pouvez-vous nous le résumer en quelques mots ?
Alors, pour traiter les tâches et je dirais laver les textiles, bah oui, il faut utiliser un certain nombre de produits parce que l'eau ne suffit pas. L'eau ne suffit pas, voilà. Et un certain nombre de ces produits, tout comme tout à l'heure pour les textiles, on rajoute des adjuvants à ces lessives pour la fabrication, pour la conservation et aussi tout simplement à titre de parfum, parce que c'est quand même pour le marketing plus sympathique d'avoir un linge qui sent bon au lieu de sentir le savon voilà, tout pur. Et pour ça, le FC Que Choisir a développé une application qui s'appelle Quel Produit. Alors, Quel Produit, pour aujourd'hui, je voulais vous en faire la démonstration. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais j'espère que vous allez me croire. Je l'ai fait avant l'émission pour la préparer et être sûr de mon coup. Et donc, j'ai demandé tout à fait au hasard à Océane et puis aux personnes qui préparaient l'émission de venir avec des produits de lessive en particulier et surtout de lessive liquide. Ce sont celles qui ont en plus de tous ces produits des conservateurs. Et donc j'ai fait l'essai sur l'un des produits. Alors c'est une étiquette, mais parce que le gros paquet de 5 kilos, c'était un peu lourd à mener
ici. À transporter.
Donc je l'ai fait et je trouve, je vous le dis tel que je le lis. Il s'agit, je ne vais peut-être pas donner la marque, mais il s'agit d'un liquide Laundry Liquid Fresh. C'est écrit en anglais, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, mais c'est le cas. C'est un produit déconseillé. Voilà, donc la couleur est orange, donc c'est très facile à déterminer. Et pourquoi est-il déconseillé ? Parce qu'il contient de la méthylchloro. Je vais vous passer le total, il fait plusieurs kilomètres. Il s'agit de mythe qui est un conservateur extrêmement dangereux, tant il provoque d'allergies de contact et d'eczéma. C'est connu depuis longtemps, voilà. Il doit être étiqueté, donc il est cette fois-ci sur l'étiquette de la lessive, donc dans la composition. Mais bien sûr, vous êtes comme moi, vous n'avez pas votre loupe dans la poche quand vous faites vos courses. Eh bien, avec Quel Produit, cette application, je le répète, libre et gratuite, vous avez une information synthétique, mais également détaillée pour tout simplement vous renseigner sur la qualité de votre achat. Et c'est tout nouveau. Dans l'application Quel Produit, on a maintenant aussi une note environnementale, voilà, qui renseigne donc sur l'impact environnemental du produit correspondant.
Donc, au long de ces deux premières parties, nous avons appris qu'il existe des solutions simples pour mieux choisir nos vêtements et impacter le moins possible l'environnement. Restez avec nous pour découvrir trois belles initiatives pour une garde-robe responsable. Mais avant, c'est le moment de la rubrique Info Positive. Trier ses déchets, c'est un jeu d'enfant. Depuis le mois de janvier, le tri est simplifié suite à la loi anti-gaspillage du gouvernement. Tous les plastiques se mettent dans la poubelle jaune, plus besoin de les nettoyer et la plupart des emballages sont recyclables. Le centre de tri des déchets de l'Eurométropole de Strasbourg, Altem, a également investi dans une ligne de tri toute neuve pour être plus performante. La bonne nouvelle, plus il y a de produits triés, plus il y a de produits recyclés et réutilisés. Mais parmi tout ça, une question reste en suspens.
Bah, qu'est-ce qu'ils ont comme alternative à nous proposer, quoi ? Qu'est-ce qu'ils pourraient nous proposer comme alternative qui serait viable ?
Et oui, peut-on s'habiller écolo sans se ruiner? Voici trois alternatives viables et simples, le recyclage, le upcycling et le faire soi-même. Avez-vous déjà entendu parler d'éco-vestiaire? On a parlé de vêtements de sport un petit peu au début. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le président Christophe Georget de la première recyclerie du matériel et vêtements sportifs à Strasbourg. Écoutons-le. Quelle est votre définition de la recyclerie sportive?
La recyclerie sportive, c'est tous les sports pour tout le monde, de tout âge.
Racontez-nous l'histoire d'Éco-Vestiaire.
Son histoire, c'est tout simplement une bande d'amis qui, à travers le sport, a décidé de faire perdurer des articles de sport et des équipements pour ne pas les jeter trop rapidement et les remettre sur de la redistribution à des gens qui seraient en difficulté ou qui voudraient pouvoir s'essayer à des sports sans avoir à dépenser trop d'argent.
Quelle est la place du sport dans la vie des Français ?
Alors en termes de budget, le budget sport représente quand même un quart de l'investissement à la rentrée, donc c'est pas anodin. Le sport coûte de plus en plus cher entre les licences. Les enfants ayant une croissance plus ou moins importante, les produits arrivent rapidement à ne plus être adaptés à l'usage ou au bon usage. Moi, en tant qu'éducateur, j'ai déjà rencontré des enfants qui couraient très mal parce qu'ils avaient des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées à leur taille. Et la seule réponse qu'ils avaient à dire, c'est qu'ils devaient patienter l'année d'après pour récupérer les chaussures du grand frère. Donc Éco-Vestiaire, clairement, veut se positionner pour pouvoir offrir des chaussures à la taille de l'enfant à un coût tout à fait approprié.
Et comment ça fonctionne concrètement? D'où viennent vos produits?
L'objectif pour nous, c'est de pouvoir auprès des professionnels de récupérer leurs invendus, leurs inventables, voire les produits destinés aux échantillons. Donc en invendu, globalement, c'est les produits qui sont en fin de collection. Les invendables, ce seraient des produits qui auraient des petits défauts que nous pouvons réparer. Et les échantillons, c'est des produits uniques qui vont servir à leur maquette pour lancer après leur grande collection. Donc ce sont trois typologies d'articles que nous pouvons récupérer. Cela auprès plutôt majoritairement des équipementiers. Les distributeurs, eux, c'est plutôt les produits qui seraient en fin de collection, mais pas sur l'année N-1, plutôt sur l'année N-2.
Comment, pour vous, sensibiliser les grandes industries et un nouveau public ?
Alors, sensibiliser le public, on n'est pas, nous, des concepteurs. Donc, malheureusement, on ne récupère que le matériel par rapport à une technologie de matière première. Bien évidemment, les équipementiers sont sensibles à ces points de vue, sur un point de vue environnemental. Là où ils sont impactants et impactés, c'est dans le cadre de la loi REP, Responsabilité élargie producteur, sur lequel ils sont tout à fait sensibles et du coup ouverts à des solutions avec un partenariat avec Éco-Vestiaire.
Quelles sont les raisons de vos consommateurs pour venir acheter chez Éco-Vestiaire ?
Typiquement aujourd'hui, le but de d'Éco-Vestiaire, c'est de rallonger la durée d'usage des produits. Donc rallonger la durée d'usage est important pour nous et ça nous permet aussi de limiter l'impact carbone dans la production d'articles neufs. Vous avez le client qui a une vraie démarche environnementale et qui se dit je suis prêt à utiliser ce produit parce qu'il est encore en bon état, même si c'est du réemploi. Vous avez la clientèle qui n'a malheureusement pas les moyens et qui cherche un prix. Et bienvenue chez Éco-Vestiaire. Et vous avez des fois les deux. Donc des clients qui sont aidés dans une démarche environnementale et qui ont le besoin ou l'envie finalement de faire attention à leur budget et du coup se disent là je fais du réemploi et en plus finalement c'est à bas coût.
Vous venez d'écouter une belle solution économique et écologique qui a une double importance au titre que l'industrie textile du sport est l'une des plus polluantes. Vous pouvez retrouver la boutique Éco-Vestiaire si vous êtes intéressé au HAL. On va passer tout de suite à une autre alternative.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Et oui, on vous en propose deux. Une alternative qui n'est peut-être pas présente aujourd'hui, mais qui est quand même l'une des solutions pour pouvoir mieux consommer, c'est Tadam. Tadam, représenté par Madame Gass, qui est un cours d'éco-couture. Donc je vous invite fortement à aller voir sur ses réseaux tout ce qu'elle peut produire. Mais nous avons également un autre concept, le concept pour réutiliser nos vieux vêtements, c'est le upcycling. Et pour cela, nous avons invité Zoé Nénig, fondatrice du projet Patchworker. Merci d'être présente.
Merci.
Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le upcycling ?
Oui, alors donc l'upcycling, c'est, ou alors en français on peut dire surcyclage. Donc c'est littéralement c'est du recyclage par le haut. Donc ça veut dire qu'on prend quelque chose qui serait a priori considéré comme un déchet et à travers une transformation, on augmente sa valeur en fait. Ça devient quelque chose d'autre, ça peut être détourné, mais en tout cas c'est ça a une valeur plus haute que celle du départ.
Et comment est né le projet Patchworker ?
Alors Patchworker, c'était mon projet de fin d'études quand j'étais étudiante en design textile. Et voilà, c'était un peu cette idée de coupler l'upcycling textile et l'insertion sociale. Donc je travaillais à ce moment-là avec une structure un peu, enfin tout comme Emmaüs, quoi, la même chose, version danoise. Et ensuite, je suis retournée à Strasbourg d'où je viens et puis j'ai contacté comme ça plein d'associations parce que j'avais envie de continuer ce projet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmaüs Mundo qui a été intéressée par ce projet-là dans le cadre de l'ouverture de sa nouvelle recyclerie solidaire. Donc c'est maintenant à Bischheim, pour ceux qui ne savent pas encore. Et donc voilà, on a monté ce projet avec Emmaüs Mundo et c'est maintenant devenu un atelier de couture dans les locaux d'Emmaüs où moi je travaille avec des salariés en insertion et ensemble nous créons des collections de vêtements et d'accessoires à partir des dons textiles faits à l'association à Emmaüs. Donc on regarde dans tous les dons, toutes les choses qu'on reçoit et on va piocher là-dedans les choses qui sont en bon état, donc c'est-à-dire que le textile est de qualité et il est encore solide et utilisable, mais le vêtement en lui-même présente des défauts qui fait qu'on ne pourra pas le revendre tel quel. Et avec ça, on fait des nouvelles choses selon voilà divers procédés.
Tout le monde n'est peut-être pas familier avec le concept de patchwork. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Ouais, tout simplement le patchwork, c'est l'idée d'assembler plusieurs morceaux de tissu. Donc traditionnellement, ce sont des carrés ou des triangles qui sont assemblés de manière géométrique et très, très belle. Voilà, et ça donne des couvertures, toutes ces choses-là. Mais c'est une pratique traditionnelle qui est faite justement pour utiliser tous ces morceaux de tissu qui sont un petit peu qui sont abîmés par endroits. Donc c'est vraiment quelque chose pour recycler un maximum et réutiliser quoi.
Et en quoi alors Patchworker serait une solution à la surconsommation ?
Alors, vaste question. Ben, à travers ce projet, donc déjà, on essaye de valoriser un maximum les dons qui sont faits à notre association, donc de jeter un minimum. Donc évidemment, on est aussi, c'est une pratique artisanale, on va dire. Donc c'est en termes de quantité de choses récupérées, c'est pas beaucoup, bien sûr, mais ça a aussi quand même une portée, disons symbolique, parce que ce projet permet de sensibiliser, de parler aux gens de leur consommation, de la durée d'usage des vêtements qu'ils achètent. Et puis, oui, voilà, je me suis perdue, j'ai oublié votre question, mais voilà, en tout cas, ça permet de parler de tout ça, à la fois d'utiliser plus longtemps ces vêtements, de les aimer mieux, de raconter aussi comment ils sont fabriqués, parce que c'est des fois quelque chose qu'on oublie aussi, c'est pas vraiment reflété non plus par les prix aujourd'hui, un vêtement, c'est complexe, ça prend du temps à être fabriqué, il y a tout un tas de savoir-faire qui entre en jeu. Et donc voilà, on essaye de mettre en lumière tout ça.
Et finalement, est-ce que le upcycling, ce serait pas un peu le futur de la mode, de la slow fashion plutôt que la fast fashion pour moins impacter l'environnement ?
Ben oui, absolument, je pense.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On a donc présenté Tadam, Ecovestiaire et Patchworker, trois alternatives pour devenir un consommateur responsable.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Voilà, notre émission se termine. Peut-être que les invités ou le public ont un dernier mot à ajouter, un dernier commentaire à faire, quelque chose à pour une petite conclusion, monsieur.
Le SOS d'un terrien en détresse. Je bats pas l'avoine, mais je lui rends hommage. On oublie les produits que la nature nous fournit généreusement. Il suffit de l'observer, de l'écouter, d'aller dans son sens et de respecter la pyramide de la vie. On oublie toutes les fibres, végétales ou animales. Un mouton, ça donne de la laine. Et pour avoir la laine, on va pas l'écorcher, le tuer. On le tond. Si on le tond au moment où il a chaud en été, on lui rend service. Il nous donne une laine qui, même mouillée, et les marins le savent, un pullover en laine mouillée tient chaud encore. Il y a un tas de choses qu'on a oubliées. Écoutons et rapprochons-nous de la nature. Je crois qu'elle a tellement de leçons et de cadeaux à nous donner.
Merci.
J'ai dit.
Peut-être du côté des invités, monsieur Dessèze.
Oui, je ne vais pas parler longtemps, mais juste dire que le bonheur ne réside pas forcément dans l'acte d'achat, mais dans les choix que nous faisons tous. Et puis, je suis assez d'accord. Au jour d'aujourd'hui encore, mieux vaut utiliser les fibres naturelles. Et surtout, limiter ces achats de vêtements au strict nécessaire.
Monsieur Pommiès.
Oui, alors deux idées que moi je retiendrai, c'est par rapport au surcyclage, c'est au fait, en fait si on surcycle un vêtement, du coup on se retrouve avec un vêtement unique, où on sera le seul à le porter sur Terre, et du coup c'est assez chouette. Et après c'est aussi retrouver des savoir-faire, savoir coudre, moi je ne sais pas coudre et j'en suis super frustré. Première chose, et la deuxième chose par rapport au choix des lessives, donc une autre idée qu'on n'a pas forcément citée, donc avec l'application quel produit on peut choisir dans les lessives qui sont dans les rayons de nos choix, mais on peut aussi fabriquer ces lessives avec des ingrédients simples, connus et qui ne contiennent pas d'adjuvants. Donc savon de Marseille, bicarbonate, etc. Donc il y a aussi ça, aller vers des choses simples.
Peut-être Madame Nelling, un dernier mot pour la fin.
Pas vraiment.
Parfait. Donc ce qu'on a appris, c'est qu'il est hyper important, très très important de lire attentivement les étiquettes pour faire attention aux composants et à la provenance du vêtement. Et les vêtements peuvent contenir des produits nocifs pour la santé et pour l'environnement. La mode équitable et éco-responsable, c'est possible et les alternatives existent pour préserver notre santé et l'environnement. Pour conclure, peut-être trois points à retenir. J'ai noté qu'en février, c'est bien ça, les étiquettes changent. C'est bien
cette
ça, monsieur
année,
cette année, ouais. Cette année, début d'année. Et on va pouvoir retrouver toutes les substances toxiques et dangereuses pour la santé et pouvoir faire des choix conscients. J'ai également noté j'ai trouvé ça très intéressant que il faut toujours penser avant d'acheter aux deux prix, le prix réel et le prix environnemental. Et finalement, le plus important, c'est de toujours s'informer et d'être conscient de tout ce qu'il y a dans ces produits. Un grand, grand merci à tous nos intervenants, à notre public. Merci à Zoé Nelig du projet Patchworker, à Maxime Pommiès, ingénieur à la ville de Strasbourg.
Merci.
Et à Monsieur Dessèze du magazine UFC Que Choisir. Merci à vous, cher public, d'avoir participé activement. Et merci évidemment aux participants du micro-trottoir. Et n'oubliez pas, le prochain épisode de la Chronique qui déballe aura lieu le 24 février à Cronenbourg. Et à cette occasion, nous essayerons de répondre à la problématique « Comment jardiner à l'intérieur et à l'extérieur sans utiliser de produits toxiques pour la santé et pour la planète ?» À tout bientôt et prenez soin de votre santé et de l'environnement.
La Chronique qui déballe. Parlons santé et environnement.